C'est la même chose que ce qui tâche ses robes de chambre. Les trucs qu'elle bouffait et qui lui donnaient cette haleine. L'image d'Annie en femme de Cro-Magnon lui revint à l'esprit. Il l'imagina assise ici et enfournant crème glacée et sauce de poulet encore à demi congelée, le tout poussé à coups de Pepsi, plongé dans un état semi-hypnotique de dépression. Le pingouin et son bloc de glace se trouvaient toujours sur le guéridon, mais elle avait jeté un certain nombre d'autres objets en céramique dans un coin, où leurs débris, coupants et effilés s'étaient éparpillés. Il ne cessait de revoir ses doigts s'enfonçant dans le corps du rat, puis les traînées rouges sur ses draps, la manière dont elle avait léché le sang sur ses doigts d'un air aussi absent que celui qu'elle devait avoir arboré en engloutissant crème glacée, gélatine et gâteau roulé mou. Ces images étaient répugnantes, mais sans pareil en tant qu'encouragement à faire vite. Le bouquet de fleurs séchées gisait, renversé, sur la table à café. En dessous de la table, à peine visible, traînait une assiette de crème anglaise durcie en croûte et en gros volume. « Les chemins du souvenir », lisait-on sur la couverture. Emprunter ce genre de chemin lorsqu'on est déprimé n'est jamais une bonne idée, Annie. Mais je suppose que vous le savez à ce stade de votre vie. Il avança le fauteuil dans la pièce. En face de lui se trouvait la cuisine. Sur la droite, un petit couloir conduisait à la porte d'entrée sur le devant de la maison. De ce couloir partait aussi l'escalier qui montait au premier. Ne donnant qu'un bref coup d'œil aux marches, il vit des couleurs de crème glacée sur le tapis qui les recouvrait, ainsi que sur la rampe, où elle prenait un aspect vitrifié. Paul roula jusqu'à la porte. Il supposait que s'il avait un moyen de sortir, cloué sur son fauteuil comme il l'était, ce serait en empruntant la porte de la cuisine, celle qu'utilisait Annie lorsqu'elle allait nourrir ses animaux, celle par laquelle elle avait surgi au galop pour aller intercepter M. Rancho Grande. Mais il se devait de vérifier celle-ci d'abord. Il pourrait avoir une surprise. Il n'en eut pas. Les marches du porche étaient aussi raides qu'il l'avait redouté. Mais même s'il avait existé un plan incliné pour fauteuil roulant, une possibilité qu'il aurait toujours refusée dans une partie animée de « sauras-tu », même suggérée par un ami, il n'aurait pu l'utiliser. Il y avait trois verrous sur la porte. Il aurait pu crocheter la serrure centrale. Les deux autres étaient des Krieg, les meilleures serrures du monde, d'après son ami Tom Twyford, le flic à la retraite. Et où se trouvaient les clés? Voyons voir. Je dirais... En route pour le rigoloir, Danny Wilkes, peut-être.
C'est gagné, Toto.
Donnez donc un cigare à ce type, avec une lampe à souder pour l'allumer. Il fit marche arrière, luttant contre la panique en se rappelant que de toute façon, il n'avait pas attendu grand-chose de la porte d'entrée principale. Il fit pivoter le fauteuil une fois dans le salon et roula jusque dans la cuisine. C'était une pièce démodée avec un linoléum brillant sur le sol et un plafond en dalles étamées. Le réfrigérateur était ancien mais silencieux. Trois ou quatre plots magnétiques étaient collés à sa porte, ressemblant tous, ce qui n'avait rien d'étonnant, à des confiseries. Une plaque de chewing-gum, un Hershey bar, un Tootsie Roll. Une porte de placard ouverte laissait voir des étagères soigneusement recouvertes de toiles cirées. Au-dessus de l'évier s'ouvrait une grande fenêtre qui, même par temps couvert, devait laisser passer un flot de lumière. La pièce aurait dû avoir quelque chose de gai. Il n'en était rien. Sans son couvercle, la poubelle avait déversé sur le sol une partie de son contenu et il s'en dégageait une puanteur tiède d'aliments en décomposition. Mais ce n'était pas là ce qu'il y avait de pire, ni l'odeur la plus nauséabonde. Il y en avait une autre, qui paraissait exister essentiellement dans son esprit, mais qui n'en était pas moins réel pour cela. On aurait pu l'appeler « parfum de Wilkes », l'odeur psychique de l'obsession. Trois portes donnaient sur la pièce, deux sur la gauche et une en face de lui, entre le réfrigérateur et le dégagement de l'arrière-cuisine. Il commença par les deux de gauche. L'une était le placard de la cuisine. Il le savait avant même d'avoir vu manteau, chapeau, foulard et bottes. Le bref jappement des gonds le lui disait assez. L'autre était celle par laquelle Annie avait l'habitude de sortir. Et celle-ci était aussi fermée par une serrure normale et deux Krieg. Les Reutemann dehors, Paul Sheldon dedans. Il l'imagina en train de rire. « Espèce de putain de salope » rugit-il, en donnant du poing contre le montant de la porte. Il se fit mal et porta le côté de sa main à la bouche. Il haïssait ce picotement de larmes, ce dédoublement momentané de sa vision quand il clignait des yeux, mais il était incapable de se contenir. La panique se manifestait plus bruyamment maintenant. Elle voulait savoir ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire. Bon sang, c'était peut-être sa dernière chance. Ce que je vais commencer par faire, c'est une évaluation détaillée de la situation. Se gourmanda-t-il lui-même. À condition que tu puisses garder ton calme, encore un petit moment, évidemment. Crois-tu pouvoir faire ça, pauvre couillon ? Il s'essuya les yeux. Ce n'est pas de pleurer qui allait le tirer d'affaire. Il regarda à travers la partie vitrée de la porte partagée en fait en 16 petits carreaux. Il pouvait certes casser les carreaux, mais il lui faudrait aussi démolir les lattes, ce qui lui prendrait des heures avec une scie. Elles avaient l'air solides. Et ensuite ? Un plongeon de kamikaze sur le porche de derrière ? Excellente idée. Avec un peu de chance, il se romprait les reins et comme ça, il aurait l'occasion de penser à autre chose qu'à ses jambes pendant un moment. En plus, il ne lui faudrait pas longtemps pour mourir de froid sous cette pluie battante et glacée. Ainsi, cette immonde histoire serait-elle définitivement réglée ? Pas question. Absolument pas question. Je vais peut-être sortir d'ici en cassant la baraque, mais je jure devant Dieu que je ne le ferai qu'à la condition d'avoir une chance de montrer à ma fidèle lectrice numéro 1 tout le plaisir que j'ai eu à faire sa connaissance. Et ce n'est pas une simple promesse, mais un vœu sacré. L'idée de rendre la monnaie de sa pièce à Annie fit davantage pour le calmer la panique qui le gagnait que toutes les remontrances qu'il s'était adressées. Un peu plus calme, il appuya sur l'interrupteur placé à côté de la porte. Une ampoule extérieure s'alluma, ce qui était bien pratique. Il ne restait plus rien de la lumière du jour depuis qu'il avait quitté sa chambre. Il découvrit que l'allée d'Annie était inondée et la cour un vrai bourbier d'eau stagnante et de paquets de neige en train de fondre. En plaçant le fauteuil roulant tout à gauche de la porte, il put apercevoir pour la première fois la route qui longeait la ferme. Même si elle n'avait rien de spectaculaire, une chaussée goudronnée à deux voies entre deux bancs de neige en pleine désagrégation, brillante comme une peau de phoque et noyé d'un mélange d'eau de pluie et de neige fondue. Bien possible qu'elle verrouille tout pour empêcher les Reutemann d'entrer, mais c'est parfaitement inutile pour m'empêcher de sortir. Si je me risque là-dedans en chaise roulante, je me retrouve enlisé jusqu'au moyeu en 5 secondes. Tu n'iras nulle part, Paul. En tout cas, pas cette nuit, et probablement pas avant des semaines. Faut compter un mois avant l'ouverture de la saison de baseball. un mois avant que le sol soit assez ferme pour que tu puisses gagner la route sur ton fauteuil roulant. À moins que tu ne veuilles foncer à travers une fenêtre et te mettre à ramper dans la boue. Non. Pas question d'en venir là. Il ne pouvait que trop bien imaginer ce qui se passerait dans ces eaux brisées au bout de 10 ou 15 minutes, à se tortiller dans les flaques glacées et la neige fondante comme un têtard en train de crever. Et même en supposant qu'il pût gagner la route, quelle chance avait-il de se faire recueillir par une voiture ? Les deux seuls véhicules qu'il eût entendus en dehors de la vieille Bessie avaient été la Bel Air de Rancho Grande et l'auto inconnue qui était passée, lui collant une frousse terrible la première fois qu'il s'était échappé de sa chambre d'amis. Il éteignit l'ampoule extérieure et se fit rouler jusqu'à l'autre porte, celle qui donnait entre le réfrigérateur et l'arrière-cuisine. Il compta 3 verrous aussi sur celle-ci, alors qu'elle n'ouvrait même pas sur l'extérieur, ou en tout cas pas directement. Un autre interrupteur se trouvait à côté de cette porte. Paul appuya dessus et aperçut par la partie vitrée ce qui était en fait une sorte d'appentis bien construit qui courait le long de la maison du côté exposé au vent. À son extrémité se dressait un tas de bois à côté d'un billot, une hache enfoncée dedans. À l'autre bout, il y avait un établi avec des outils accrochés à des clous. Sur sa gauche, une autre porte. L'ampoule qui pendait là-dedans n'était pas très puissante, mais elle donnait assez de lumière pour laisser voir, sur cette dernière porte, la serrure classique renforcée de 2 verrous Krieg. Les Reutemann. Tout le monde m'en veut. « Je ne peux parler pour eux, » dit-il à la cuisine vide, « mais quant à moi, c'est évident. » Abandonnant l'idée des portes, il roula jusqu'à l'arrière-cuisine. Avant d'examiner la nourriture rangée sur les étagères, il chercha les allumettes. Il trouva 2 cartons pleins de pochettes publicitaires et au moins 2 douzaines de boîtes de Diamond Blue Tips, soigneusement rangées. Pendant un moment, il envisagea sérieusement de mettre le feu à la maison. Fut sur le point de rejeter l'idée comme la plus ridicule de celle qu'il avait eue, puis vit quelque chose qui le poussa à la réexaminer. Il y avait là-dedans une autre porte, cette fois-ci sans verrou. Il l'ouvrit pour découvrir une série de marches raides et branlantes qui s'enfonçaient de guingois dans la cave. Une odeur méphitique d'humidité et de légumes pourrissants s'élevait de l'obscurité. Il entendit des couinements et se rappela les paroles d'Annie. « Ils viennent dans la cave lorsqu'il pleut. Je mets des pièges, c'est nécessaire. » Il claqua précipitamment la porte. Une goutte de sueur lui coula sur la tempe et vint se loger au coin de son œil droit. Il l'essuya de l'articulation du doigt. Il avait compris que cette porte donnait sur la cave. Comme elle n'était pas verrouillée, il avait cru un instant pouvoir mettre le feu à la maison et s'abriter dans le sous-sol en attendant. Mais les marches étaient trop raides, et le risque de brûler vif si jamais la maison s'effondrait avant l'intervention des pompiers de Sidewinder, trop réel. Quant au rat, les bruits qu'il faisait étaient peut-être ce qu'il y avait de pire. Comme son cœur bat, comme il se démène pour s'échapper, comme nous le faisons aussi, Paul, comme nous. D'Afrique, murmura Paul, qui ne s'entendit pas le dire. Il commença à examiner les boîtes de conserve et les paquets des étagères, essayant d'évaluer ce qu'il pouvait emporter avec le moins de risque qu'elle s'en aperçût la prochaine fois qu'elle viendrait faire un tour là-dedans. En lui, quelque chose savait ce que signifiait exactement ce travail d'évaluation. Il avait abandonner l'idée de s'enfuir.
Seulement pour le moment, protesta son esprit troublé.
Non, lui répondit implacable une voix plus profonde. Pour toujours, Paul. Pour toujours.
Je n'y renoncerai jamais, murmura-t-il. Tu m'entends ? Jamais !
Ah non ? Susurra le cynique d'un ton sardonique.
Eh bien, nous verrons, n'est-ce pas ?
Oui. On verrait. L'arrière-cuisine d'Annie ressemblait davantage à un abri anti-atomique qu'à une resserre classique. Il supposa que la profusion de ses réserves tenait au moins en partie à la particularité de sa situation.
Elle vivait seule, dans une région d'altitude peu habitée, un endroit où il est raisonnable de s'attendre à être coupé du reste du monde pendant certaines périodes de l'année, non seulement un ou deux jours, mais parfois une semaine, voire deux. Même ces biscornouilles de Reutemann devaient avoir une arrière-cuisine dont l'approvisionnement rendrait perplexe toute ménagère d'une autre partie du pays.
Mais il doutait néanmoins que même ces biscornouilles de Reutemann eussent un stock comparable à ce qu'il avait sous les yeux. Ce n'était pas un office, un garde-manger, une arrière-cuisine, mais un foutu supermarché. Il soupçonna l'existence d'un certain symbolisme dans la disposition des réserves d'Annie. Les rangées de boîtes et de pots trahissaient quelque chose du flou qui régnait à la frontière entre l'État souverain de réalité et la République populaire de paranoïa. Vu la situation dans laquelle il se trouvait, cependant, ce genre de spéculation lui parut pouvoir être remis à plus tard.
Au diable le symbolisme. En avant pour la bouffe. Oui, mais attention.
Le danger ne venait pas seulement des disparitions qu'elle pourrait remarquer. Il ne devait pas emporter davantage de choses que ce qu'il pourrait raisonnablement dissimuler si elle débarquait à l'improviste. Or, comment allait-elle revenir, sinon à l'improviste ? Le téléphone était coupé et quelque chose lui disait que Annie ne prendrait pas la peine de lui envoyer un télégramme ou des roses par Interflora.
De toute façon, se dit-il, les disparitions qu'elle remarquerait ou la nourriture qu'elle risquait de trouver dans la chambre, c'était sans importance. Parce que, après tout, il fallait bien manger. À la bouffe aussi, il était accro.
Des sardines. Il y en avait un vrai banc, dans cette petite boîte plate avec la clé prise sous le papier d'emballage.
Bien, il en prendrait quelques-unes.
Des boîtes de jambon au poivre.
Pas de clé, mais il pouvait en ouvrir deux dans la cuisine et commencer par elles.
Bien enfouir les boîtes vides au fond de la poubelle qui débordait. Il trouva un paquet ouvert de raisins de Corinthe, contenant des emballages plus petits que la publicité sur la cellophane déchirée vantée comme « coupe fin ». Paul ajouta quatre coupes fins au tas qui commençait à s'élever sur ses genoux, ainsi que des céréales en portions individuelles. Il remarqua l'absence de céréales présucrées. S'il y en avait eu, Annie les avait englouties lors de sa dernière orgie. Sur une étagère plus haute s'empilaient des Slim Jims, aussi soigneusement disposés que le petit bois dans un bûcher. Paul en prit quatre, s'efforçant de ne pas altérer la structure pyramidale du tas, et en dévora un gloutonnement, ravi de sentir le goût du sel et de la graisse. Il fourra l'emballage dans son sous-vêtement pour s'en débarrasser ultérieurement. Ses jambes commençaient à lui faire mal. Il se dit que puisqu'il renonçait à s'enfuir ou à mettre le feu à la maison, il ferait mieux de retourner dans sa chambre. Perspective décevante. Mais les choses auraient pu être pires. Il pourrait prendre de gélules, puis écrire jusqu'à ce que le sommeil le gagne. Sur quoi ? il se coucherait.
Il pensait qu'elle ne reviendrait pas ce soir. Loin de se calmer, la tempête devenait de plus en plus violente. Décevante ou pas, l'idée d'écrire tranquillement puis de s'endormir en sachant qu'il se trouvait absolument seul, que Annie ne risquait pas de surgir à chaque instant avec quelque idée démente ou quelque exigence qui le serait encore plus, cette idée ne manquait pas d'attrait. Il sortit en marche arrière de l'arrière-cuisine, s'arrêta pour éteindre la lumière, se souvenant qu'il devait rincer, remettre tout en ordre au fur et à mesure qu'il battait en retraite. S'il se trouvait à court de nourriture avant son retour, il pourrait toujours retourner se servir, comme un rat affamé, n'est-ce pas, Polly ? Mais il ne devait pas oublier de se montrer extrêmement prudent. Comme il poussait le fauteuil à travers le salon, l'album tombé sous la table à café attira à nouveau son œil. Il avait la taille d'un gros in-quarto et l'épaisseur d'une Bible familiale. Sa curiosité éveillée, il le ramassa et l'ouvrit. Sur la première page figurait un article de journal d'une colonne avec pour titre « Mariage Wilkes-Berryman », accompagné d'une photo où l'on voyait un jeune homme pâle, au visage étroit, en compagnie d'une femme aux yeux sombres et à la bouche pincée. Paul compara la photo avec le portrait qui trônait au-dessus de la cheminée. Pas de doute. La femme qui, d'après l'article, s'appelait Chrysilda Berryman, « ça, c'est un nom digne d'une héroïne des Misères », songea Paul, était bien la mère d'Annie. Dessous, en lettres bâtons et à l'encre noire, était écrit « Bakersfield, journal, 30 mai 1938 ». La page 2 était consacrée à l'annonce d'une naissance, celle de Paul Emery Wilkes, le 12 mai 1939, au Receiving Hospital de Bakersfield. Les heureux parents, Carl et Chrysilda Wilkes. Le prénom du frère aîné d'Annie fut un choc pour Paul. C'était sans doute avec lui qu'elle avait dû aller voir les feuilletons au cinéma. Avec ce frère qui s'appelait Paul, lui aussi. La naissance d'Annie Marie Wilkes occupait la page 3, en date du 1er avril 1943. Les heureux parents étaient toujours les mêmes. Le fait qu'elle fût née le jour des fous n'échappa pas à Paul. À l'extérieur, les rafales redoublaient de violence tandis que la pluie battait la maison. Fasciné, ses souffrances momentanément oubliées, Paul tourna la page. L'article suivant provenait également du journal de Bakersfield. La photo montrait un pompier juché sur une échelle, se détachant sur un fond de flammes qui montait en tourbillonnant des fenêtres d'un immeuble. Incendie dans un immeuble de rapport, 5 morts. 5 personnes, dont 4 d'une même famille, ont trouvé la mort à l'aube, mercredi matin, asphyxiées par la fumée, lors de l'incendie qui a ravagé un immeuble d'appartement à Bakersfield, sur Watch Hill Avenue. 3 des victimes sont des enfants, Paul, 8 ans, Frédéric, 6 ans, et Alison Krenmitz, 3 ans. Le 4e est leur père, Adrian Krenmitz, âgé de 41 ans. Monsieur Krenmitz, ayant sauvé le plus jeune de ses enfants, Lorine, 18 mois, voulut aller chercher les autres. D'après Madame Krenmitz, après lui avoir confié le bébé, son mari lui aurait dit « Je vais chercher les autres, j'en ai pour une minute, prie pour nous. » Elle ne l'a pas revu vivant. La 5e victime, Irving Talman, 58 ans, était un célibataire qui vivait au dernier étage du bâtiment. L'appartement du 2e se trouvait inoccupé au moment de l'incendie. La famille Wilkes, tout d'abord portée manquante, avait quitté son domicile le mardi soir à cause d'une fuite d'eau dans la cuisine. « Je pleure pour Madame Krenmitz et le deuil qui la frappe », confia
Chrysilda Wilkes, un journaliste du Bakersfield Journal. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir épargné mon mari et mes deux enfants. Le capitaine des pompiers, Michael Owen, a précisé que le feu s'était déclaré dans le sous-sol de l'immeuble. Interrogé sur la possibilité d'un incendie criminel, il a répondu « Il est plus probable qu'un clochard ivre a dû s'introduire dans le sous-sol pour y passer la nuit et a mis le feu avec une cigarette. Au lieu de chercher à l'éteindre, il a sans doute pris peur et fui. J'aimerais bien qu'on l'attrape, ce salopard responsable de 5 morts. » À la question de savoir si la police disposait d'indices, il a répondu « Elle dispose de plusieurs pistes et ça ne va pas traîner, je vous le dis. » Même lettre bâton en dessous de l'article. 28 octobre 1954. Paul releva la tête. Il restait parfaitement immobile, mais son pouls s'était accéléré dans sa gorge et il ressentait une impression de chaleur et de relâchement dans les intestins. Des petits morveux. 3 des victimes étaient des enfants. Les 4 morveux du rez-de-chaussée. Oh non, Seigneur, non. Je détestais ces petits morveux. Elle n'était qu'une enfant et ne se trouvait même pas dans la maison. Elle avait 11 ans, assez grande et peut-être même assez dégourdie pour avoir l'idée de répandre un peu d'essence autour d'une bouteille d'alcool à bon marché, puis d'allumer une bougie et de la planter au milieu de la flaque d'essence. Elle s'est peut-être dit que ça ne marcherait pas, que l'essence allait s'évaporer avant que la bougie eût fini de se consumer. Peut-être avait-elle pensé qu'ils s'en tireraient tous, que c'était un moyen pour les pousser à déménager en leur faisant peur. Mais elle l'a fait, Paul. Elle l'a foutrement fait. Et tu le sais bien. Oui. Tout lui disait que oui. Et qui aurait pu la soupçonner? Il tourna la page. Il tomba sur un autre article du Bakersfield Journal. Celui-là en date du 19 juillet 1957 et accompagné d'une photo de Carl Wilkes. Il avait l'air un peu plus vieux, mais une chose était claire. Il ne paraîtrait jamais plus âgé. Il s'agissait d'un article nécrologique. Un de nos concitoyens se tue dans une chute accidentelle. Carl Wicks, un habitant de toujours de Bakersfield, est mort peu après son admission au Hernandez Hospital la nuit dernière. Monsieur Wilkes aurait trébuché sur un tas de linge laissé en haut de l'escalier en voulant descendre répondre au téléphone. Le docteur Frank Canley, de service au moment de l'admission, a déclaré que Carl Wilkes était mort de fractures multiples au crâne et à la nuque. Il était âgé de 44 ans. Wilkes laisse derrière lui son épouse, Chrysilda, un fils, Paul, 18 ans, et une fille, Annie, 14 ans. Lorsque Paul passa à la page suivante, il crut pendant un moment que Annie avait collé 2 articles sur la mort de son père, soit pour des raisons sentimentales, soit par accident, cette dernière hypothèse lui paraissant comme la plus probable. Mais c'était d'un tout autre accident qu'il s'agissait, et ce qui les rapprochait était extrêmement simple. Aucun des deux n'avait été un accident. Il se sentit envahi par un sentiment de terreur pure. En dessous de l'article, écrit à la main, on lisait « Los Angeles Call, le 29 janvier 1962 ».